Chapitre 16. Qui donne quelques nouvelles du retour du colonel Hubert à Cheltenham. Il nous faut maintenant suivre le colonel Hubert à Cheltenham, où il était revenu dans un état d'esprit difficile à décrire. Agnès savait son amour. À la vérité, c'était un soulagement. Mais, à part cela, que de motifs n'avait-il pas pour se tourmenter ? Ne savait-il pas que malgré toute l'affection, toute l'admiration même que sa tante avait pour lui, jamais elle ne consentirait à lui voir épouser la nièce d'une mistress Barnabé. D'un autre côté, son beau-frère, Sir Edward Stephenson, tout en étant un aimable garçon, était fier et avait sur les alliances des idées bien arrêtées, le colonel ne le savait que trop. N'était-ce pas là ce qui l'avait poussé à détruire l'attachement ardent, généreux, irréfléchi, terrible souvenir qui l'oppressait plus que tout, que son confiant ami Frédéric avait conçu pour celle-là même dont il voulait, lui aussi, faire sa femme, contre le vœu de toute sa famille, et quand, de plus, il se rappelait les douloureuses paroles d'Agnès, « Jamais je ne serai votre femme », il fallait toute la puissance qu'avait prise sur son cœur cette passion maîtresse pour qu'il pût conserver la ferme résolution de communiquer son désir à Lady Elizabeth sans perdre tout espoir. C'est préoccupé par toutes ces pensées qui le travaillaient fortement qu'il entra dans le salon de sa tante, se réjouissant de la trouver en tête-à-tête avec sa sœur. Sir Edward était absent à cause d'un dîner d'homme. Elles l'accueillirent par un tel déluge de questions les plus anxieuses sur leur jeune favorite qu'il se décida à entamer sans plus tarder le redoutable sujet de ses désirs et de ses espérances. L'intérêt affectueux de ces dames pour la jeune fille lui avait rendu une confiance qu'il était loin d'avoir en entrant dans la pièce. « La charmante créature !» s'écria Lady Elizabeth. « Et alors, cette misérable femme l'a laissée ainsi, seule à Londres, dans un hôtel garni ? Pourquoi ne l'avez-vous pas ramenée avec vous, Montaigu ? Ce n'était certes pas le moment de faire de l'étiquette. » « Je n'ai seulement pas osé le proposer, » répliqua le colonel Hubert, dont la contenance et la voix mal affermie avaient suffi pour faire échanger aux deux dames un regard rapide. « Vous n'avez pas osé proposer à Agnès Willoughby, la pauvre petite, de venir avec vous chez moi, colonel Hubert, » dit la vieille dame. « Vous avez donc oublié que vous étiez parti pour Londres, ayant dans votre poche une invitation de ma part pour elle ?»« Ma chère tante, » reprit le colonel Hubert en balbutiant, comme jamais ni l'une ni l'autre des deux femmes qui l'écoutaient ne l'avaient entendu faire, « j'ai bien des choses à vous dire au sujet d'Agnès Willoughby, » et de moi-même. Alors, au nom du ciel, dites-les donc, dit Lady Elizabeth avec vivacité. Quoi que ce soit, je préfère l'entendre à rester ici, suspendu par les oreilles, entre le possible et l'impossible. Le colonel Hubert alla s'asseoir à côté de Lady Stephenson, dont il prit la main, comme pour lui faire comprendre qu'elle devait aussi écouter ce qu'il allait dire, quoique ce fût à leur tante qu'il s'adressa. Je puis du moins vous épargner l'angoisse de la tante, Lady Elizabeth, et à vous aussi, ma chère Émilie, qui me regardez avec une si grande anxiété. J'aime Mademoiselle Willoughby, et j'espère en faire ma femme dans le plus prompt délai possible. Lady Stephenson lui serra la main sans rien dire, mais elle poussa un profond soupir. Lady Elizabeth, qui n'avait pas la coutume de manifester ses sentiments avec autant de douceur, se leva de la place qu'elle occupait sur le sofa et, se plaçant précisément en face de son neveu, lui dit avec la plus grande véhémence « Montaigu Hubert, fils de feu ma sœur, vous êtes parvenu à l'âge de raison, vous l'avez même dépassé quelque peu. Votre magnifique fortune de 1300 livres sterling de rente et, pardon, plus quelques livres, shillings et pence d'appoint, est bien à vous. Vous pouvez épouser Mistress Barnaby elle-même, s'il vous convient de fixer votre bien sur sa tête. Pas un être vivant, que je sache, n'a le pouvoir de vous en empêcher. Mais ne vous attendez pas, monsieur, à ce que Lady Elizabeth Norris reçoive jamais comme sa nièce une fille assez artificieuse pour cacher à moi et à votre sœur le fait de son engagement avec vous, et cela pendant qu'elle recevait de chacune de nous les plus flatteuses attentions, et même, je dirais plus, une affection telle qu'il n'est pas un cœur qu'elle n'eût ouvert, à moins qu'il ne fût d'airain et d'acier. Non, si vous vous attendez à cela, vous serez entièrement déçu. » Cette harangue, à laquelle sa seigneurie désirait imprimer une sévérité écrasante, était presque, par le fait, la chose la plus agréable que le colonel Hubert pût entendre, car elle touchait justement à un grief qu'il était parfaitement en état d'annuler. Tout embarras disparut immédiatement de ses manières, et s'élançant de sa place entre sa tante et la porte, vers laquelle cette dame se dirigeait d'un pas imposant, il dit avec un peu d'exaltation : « Ma tante bien-aimée, comme c'est bien de votre noble cœur d'avoir fait cette objection avant toute autre. Mais cette objection, je puis la lever d'un seul mot. Jusqu'à hier soir, Agnès était aussi ignorante de mon amour que vous et Émilie pouviez l'être vous-même. Je l'ai aimée depuis plus longtemps peut-être que je ne le sais moi-même. Peut-être est-ce de la première heure où je l'ai vue, mais elle n'en a rien su. Hier soir, pour la première fois, je lui ai avoué mon amour. Et que croyez-vous, Lady Elizabeth, qu'elle m'ait répondu ? Mais, monsieur Bénédicte, je n'en sais rien. Grand merci, monsieur, je suppose, avec une profonde révérence. » Je n'ai pas été si heureux, Lady Elizabeth, reprit-il en souriant à demi. Un moment après, il ajouta pourtant, avec une physionomie de laquelle toute trace de gaieté avait disparu, la réponse que m'a faite Mademoiselle Willoughby à ma proposition du mariage a été « Colonel Hubert, je ne serai jamais votre femme. » « Vraiment ? Alors comment se fait-il, Montaigu, que vous parliez encore de l'épouser ?»« Parce qu'avant de la quitter, j'ai cru entrevoir quelques raisons d'espérer que son refus n'était pas causé par une aversion personnelle. » « En vérité ! » interrompit Lady Elizabeth. « Hélas, ma chère tante, reprit Hubert, vous pouvez peut-être vous imaginer, dans votre partialité pour moi, que la chose est impossible, mais malheureusement pour mon repos, je me suis souvenu que j'avais plus de 35 ans et elle pas tout à fait 18. Mais je suppose qu'elle vous a dit que vous étiez encore un très bel homme. Bien certainement, elle avait encore une autre objection et je vous en prie, qu'était-elle, monsieur ? Elle craint que cette union ne vous déplaise, à vous et à Lady Stephenson. Et vous lui avez assuré, avec l'ardeur la plus vive peut-être, qu'elle se trompait. Non, Lady Elizabeth, je n'en ai rien fait. Il existe, dans la position de cette jeune personne, des choses qui doivent soulever les objections de la part de ma famille à l'égard de mon mariage avec elle. Et quoique ma petite fortune indépendante soit bien à moi, comme le fait observer votre seigneurie, je n'aimerais pas la partager avec une femme qui ne se soucierait point de la manière dont ma famille l'accueillerait. Tout mon espoir réside donc dans la confiance que j'ai que vous voudrez bien l'une et l'autre, votre approbation seule mais précieuse, peser dans la juste balance de vos esprits et de vos cœurs tout ce qui parle en faveur de ma charmante Agnès ainsi que tout ce qui est contre elle. Faites cela, Lady Elizabeth, avec toute la bonté qui vous caractérise. Émilie vous aidera. Demain matin, vous me direz ce que vous aurez résolu. Je ne puis rien décider avant de vous avoir entendu. » Ceci dit, le colonel Hubert quitta la chambre. On ne le revit plus de la soirée. Le lendemain matin, il rencontra Lady Stephenson à déjeuner. Mais Lady Elizabeth ne parut point. Elle envoya dire, ce qui lui arrivait quelquefois, qu'elle prendrait son chocolat dans sa chambre. Sir Edward n'était pas dans la salle à manger quand le colonel y entra. Il saisit donc cette occasion pour s'informer en hâte de la réponse qu'il pouvait espérer de sa sœur et de sa tante. « De ma part, Montaigu, répondit Lady Stephenson, vous ne pouvez rien craindre de bien fâcheux. Depuis si longtemps, j'ai été accoutumé à croire que tout ce que faisait mon frère était ce qu'il y avait de plus sage, de meilleur, qu'il me serait fort difficile maintenant de penser autrement. D'ailleurs, je ne puis nier, tel peu d'importance que cela puisse avoir, que moi aussi j'aime extrêmement Agnès Willoughby, et que, bien que je donnasse volontiers mon petit doigt pour qu'elle n'eût jamais appartenu à aucune tante Barnabé, je n'ai jamais vu, dans n'importe quel rang de la société, une seule femme que je me sois sentie si portée à aimer et à accueillir comme une sœur. » En réponse à ceci, le colonel pressa sur son cœur la charmante diseuse et, avant qu'il eût laissé s'échapper de ses bras, lui redemandant encore quelle était la réponse de Lady Elizabeth, Sir Edward rentrait et la conversation devenait générale. Pendant plusieurs heures de cette assommante matinée, l'absence prolongée de la vieille dame au salon maintint le colonel Hubin dans un état d'incertitude et d'attente qui lui rappelait le supplice de Tantale. Enfin, Sir Edward et sa femme étant partis pour faire leur seconde tournée du matin, il fut un peu réconforté par l'entrée de la vieille femme de chambre qui faisait l'office de dame d'atour auprès de sa tante. Elle apportait le petit chien de sa seigneurie, ainsi que le coussin de velours, apanage du dit chien. Quand elle l'eut très respectueusement placé devant le feu, elle avança d'un pouce le fauteuil favori de sa maîtresse, d'un autre pouce la petite table qui se trouvait toujours auprès, et elle allait se retirer lorsque le colonel lui dit « Ma tante vient-elle, Mitchell ?»« Milady ne va pas tarder, colonel, mais sa seigneurie est un peu souffrante ce matin. » Et, faisant avec grâce une révérence jusqu'à terre, elle disparut. Le colonel trembla. Être un peu souffrante pour sa seigneurie, il savait cela depuis son enfance, équivalait à être de très mauvaise humeur. « Elle ne va pas vouloir la voir, » pensait-il en arpentant la chambre avec la plus violente agitation. « Et alors, Agnès tiendra sa parole. Jamais elle ne sera ma femme. » « Seigneur Dieu, comme vous secouez la chambre !» dit une voix bourrue derrière le colonel, au moment où, dans ses fiévreuses allées et venues, il venait de dépasser la porte. « S'il vous prenait de ces fantaisies de grand matin, quand la servante est là pour balayer la poussière que vous avez soulevée, je ne dirai rien, car en vérité, cela peut tenir lieu de battre le tapis. Mais au moment précis où je viens m'installer ici, c'est fort désagréable. » La boutade dura juste assez de temps pour permettre à la vieille dame, qui semblait avoir mangé des pommes vertes et qui marchait comme si la goutte venait de se jeter sur toutes ses articulations, de se placer confortablement dans son fauteuil. Pendant tout ce temps, le colonel se tenait debout, immobile devant la cheminée, les yeux fixés avec anxiété sur les traits vénérables mais fort hostiles qu'il avait devant lui. Il y eut un silence d'un instant pendant lequel la vieille dame regarda son neveu de la façon la plus irritante, car, au milieu de la mauvaise humeur exprimée par ce regard, il y avait un rayon de joyeuse malice qui semblait dire « Vous avez l'air de quelqu'un qui va pleurer, colonel !» Il sentit la provocation et cela lui rendit du courage. « Puis-je vous demander, Lady Elizabeth, » dit-il, « ce qu'il m'est permis d'espérer de votre bonté au sujet de ce que je vous ai dit hier au soir. »« Dites-moi, je vous prie, monsieur, vous souvenez-vous de votre grand-père ?» Telle fut la réponse de Lady Elizabeth. « Le comte d'Archdale ? Oui, madame, parfaitement. »« Vous vous en souvenez, hein ? Et votre grand-père paternel et sa généalogie qui remontait au duc de Nigle de Normandie, avez-vous jamais entendu parler de lui ?» « Mais oui, Lady Elizabeth, » répondit le colonel d'un ton indifférent. « J'ai entendu parler de lui. Seulement, j'étais fort jeune quand il mourut, vous le savez bien. » Il y eut encore là un silence d'une minute. Il fut rompu par une autre question de Lady Elizabeth. « Et je vous prie, monsieur, voulez-vous m'accorder la faveur de me dire qui était le grand-père de Mademoiselle Willoughby ?»« Je crois... ou plutôt, je suis sûre, Lady Elizabeth, que Mademoiselle Willoughby est la petite fille de ce Willoughby de Greetfield Park, de Warwickshire, qui perdit au piquet ce terrible enjeu dont vous avez entendu parler. Ces deux filles ont épousé les deux filles jumeaux de Lord Escombe. Je pense que vous ne pouvez pas avoir oublié tous ces événements. » Lady Elizabeth s'avança sur le bord de son fauteuil, et fixant avec fermeté ses yeux sur la figure de son neveu, elle dit de l'accent le plus sévère « Auriez-vous la prétention de me faire croire, colonel Montaigu Hubert, qu'Agnès Willoughby est la nièce de Lady Iscombe et celle de l'honorable Mistress Nivette ?» J'ai la prétention de vous faire croire, madame, à la ferme persuasion que j'ai, que ce fait sera prouvé. Seulement, je n'ai pas cru nécessaire, pour le fils de mon père, de contenir l'affection qu'il éprouvait pour celle que son cœur a choisie, tant qu'il n'était pas certain que ce choix lui vaudrait l'honneur de devenir le neveu de Lady Iscombe. Et si vous ne m'aviez pas questionné si particulièrement à ce sujet, je n'aurais pas parlé de ma conviction à l'endroit de cette parenté, à cause de la comparaison qu'on ne manquera pas d'établir entre l'égalité des droits de Mistress Barnabé. » Si le colonel avait étudié sa réponse pendant une année entière, il n'aurait pas su en composer une plus sensée. Elle contenait une pointe de hauteur qui ne laissait pas que d'être fort sympathique à la vieille lady. Elle contenait aussi une sorte de défi assez sérieux pour la faire réfléchir et la porter à se demander s'il serait bien sage à elle de pousser la taquinerie plus loin. Elle recommença donc son interrogatoire, plutôt avec curiosité qu'avec ironie. « Voudriez-vous me dire, Montaigu, de quelle source vous tenez ces renseignements sur la famille de Miss Willoughby ? Serait-ce d'elle-même ? » ?»« Non, certainement. Et si les choses sont telles que je vous l'ai dit, comme je l'espère et le crois, la découverte en surprendra Miss Willoughby tout autant que votre seigneurie. » »« De qui donc les tenez-vous alors ? » ?»« Ce qui est bien certain, Lady Elizabeth, c'est que ce n'est d'aucune personne de la connaissance d'Agnès. L'autre jour, au club, à propos de je ne sais plus quoi, on parla de cette partie de piquet insensée que joua jadis le vieux Willoughby. Le nom me frappa et j'amenai le vieux Major Barnes à me parler de cette famille. Il me raconta que le fils, le plus jeune des enfants, une espèce d'hurluberlu, avait, pendant son séjour dans le régiment de province, épousé une jeune fille que la famille Willoughby n'avait jamais voulu recevoir, que, désolé, le cœur brisé par cet abandon des siens, il était parti pour le continent presque tout de suite après son mariage et qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis. Et c'est sur ce fondement que vous bâtissez l'espérance que la nièce de Mistress Barnabé est aussi celle de Lady Iscombe ? C'est fort ingénieux en vérité, colonel, en théorie. Mais cela n'a pas grande solidité quand il s'agit d'en faire la base d'un édifice auquel on voudrait accrocher quelque chose de tant soit peu lourd. Ne le trouvez-vous pas ? Je ne veux rien accrocher ni rien fonder là-dessus, Lady Elizabeth. Si je n'avais pas senti que Mademoiselle Willoughby était faite pour me rendre heureux, qu'il fût question ou non de cette parenté supposée, ce n'est certes pas la perspective de cette parenté qui me le ferait croire. Cependant, pour que votre seigneurie ne me fasse pas dans son imagination plus fertile en invention que je ne le suis réellement, je dois ajouter que lorsque j'étais à Clifton, j'avais entendu dire aux demoiselles Peters, dont je vous ai souvent parlé, que le père d'Agnès avait été sur le continent après son mariage et, de plus, que la famille de sa femme n'avait jamais eu de ses nouvelles depuis. Lady Elizabeth resta quelque temps sans répondre. Elle semblait méditer profondément sur ce qu'elle venait d'entendre. À la fin, elle dit d'une voix où l'ironie, la dureté, la légèreté et la sévérité étaient également bannies. « Montaigu, jamais je ne pourrai sympathiser avec les sentiments que vous venez d'exprimer. Jamais je n'admettrai que la parenté d'une Lady Iscombe soit une chose à dédaigner pour une jeune personne qui entre dans la vie. » Et quand vous me dites que ni le rang ni la position dans le monde ne sauraient modifier votre choix, je ne puis pas vous suivre, surtout lorsqu'il s'agit de savoir si c'est une Mistress Barnabé ou une Lady Iscombe qui doit figurer en premier. Rien n'est aussi démontant dans une discussion que d'entendre anéantir par quelques paroles sensées toute une explosion de grands sentiments. Avant de répondre, le colonel Hubert recommença à arpenter le salon deux ou trois fois d'un bout à l'autre. Il sentait qu'à la manière dont sa tante posait les choses, il était tout aussi éloigné qu'elle d'admettre ce qu'il avait dit. Mais avant d'avoir achevé sa promenade par la chambre, l'image de la pauvre Agnès désolée, telle qu'il l'avait laissée la veille au soir, se dressait devant lui et reprenait sur son cœur son invincible influence. Dieu me garde de ne jamais défendre une pareille doctrine, Lady Elizabeth. Croyez-moi, elle n'est pas mienne. Mais, en un mot, j'aime Mademoiselle Willoughby. Et si je puis arriver au bonheur d'être aimé en retour, rien, excepté son propre refus, ne pourra m'empêcher de l'épouser. Voilà pour moi l'état des choses. Je ne tenterai rien d'autre et m'en remets entièrement à votre jugement pour aplanir le chemin devant moi. » La vieille dame le regarda et sourit très tendrement. « Montaigu, dit-elle, éclaircissez mes doutes. Qu'est-ce qui m'a gagné à votre manière de voir ? Serait-ce vos soupçons à l'endroit des ancêtres paternels de Mademoiselle Willoughby, ou bien serait-ce votre naïve franchise ? Sur mon honneur, je ne saurais le dire. Mais ce qui est bien certain, c'est qu'au début de cette conversation, jamais je n'aurais cru arriver à me sentir disposé, comme je le suis en ce moment, à me souvenir que cette Agnès est réellement une adorable créature. » Le colonel Hubert s'agenouilla sur son tabouret et, lui baisant la main, « Il m'importe peu de connaître la cause, ma tante chérie, dit-il d'une voix où son bonheur perçait. Que le ciel soit béni de l'effet. Et maintenant, serait-ce abusé de votre bonté que de vous demander de vous rappeler la position où se trouve Miss Willoughby en ce moment ? Avec les intentions que je vous ai dites, n'est-il pas de mon devoir de l'en retirer ? » Encore une fois, Lady Elizabeth médita. Agnès ne dit-elle pas dans sa lettre à Lady Stephenson qu'elle a écrit à quelque vieille parente du Devonshire ? C'est très probable, reprit le colonel, car elle m'a dit quelque chose de ce genre. Elle espérait avoir une réponse jeudi. Jeudi, c'est demain, n'est-ce pas ? Eh bien, Montaigu, avant de répéter notre offre de protection, il faut savoir ce que jeudi aura à mener. Il était impossible de faire une réponse plus judicieuse. Le colonel se résigna donc à attendre, aussi patiemment que possible, la lettre que devait écrire Agnès. Et il fut bien récompensé d'avoir agi ainsi. La lettre de la jeune fille arriva, si modeste, si décente, écartant toute inquiétude actuelle à son sujet, quoiqu'elle ne donnât aucune idée du merveilleux changement qui s'était opéré sur son sort. Mais ce qui produisit sur Lady Elizabeth l'impression la plus favorable, ce fut le post-scriptum de Miss Compton. Car bien que l'idée lui soit venue que positivement il y avait dans le nez d'Agnès une certaine ressemblance avec celui de la fille aînée de Lord Iscombe, l'honorable Miss Nivette, idée qui faisait merveille comme un contrepoids au rouge et aux boucles de Mistress Barnabé, la pensée que non seulement cette horrible femme, mais encore une légion de tantes et de cousins pouvait, par le fait de ce mariage si mal assorti, lui tomber des nues, la maintenait dans un état vaguement fiévreux, tenant le milieu entre la bonne et la mauvaise humeur, qui était extrêmement pénible pour son neveu. La vieille dame était la finesse en personne. Elle avait tout de suite compris que le post-scriptum de la lettre d'Agnès n'avait pas été écrit par une seconde mistress Barnabé. Et de ce moment, elle avait décidé, sans pour cela le laisser paraître, qu'elle ne tourmenterait plus le colonel par son opposition. Après une courte consultation entre la tante et la nièce, une lettre fut expédiée. Nous avons vu qu'elle avait été reçue avant que Miss Compton et Agnès eussent quitté Londres pour Clifton. Le colonel Hubert appela donc à son aide tout ce qu'il possédait de patience pendant les jours misérablement longs que les domestiques de Lady Elizabeth laissèrent passer à faire les préparatifs de ce changement de résidence. Heureusement, il trouva une compensation dans le plaisir avec lequel il apprit que Sir Edward consentait très complaisamment à satisfaire la part en caprice qui faisait désirer à sa jeune femme de retourner à Clifton. Le colonel persistait à ne rien vouloir confier à son beau-frère jusqu'au moment où il pourrait, en le présentant à Miss Willoughby, le présenter à sa fiancée. Cette réserve était-elle causée par la crainte où il était encore qu'Agnès ne le trouvât trop vieux pour lui accorder sa main ? Peut-être bien. Elle n'avait pas 18 ans et lui, il en avait plus de 35. C'était un fait qui ne se répétait que trop souvent pour sa tranquillité.